RCF.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission Effervescence. Oui, bienvenue dans ce magazine de l'étonnement culturel. Dans ce mois de juin qui cultive toutes les teintes du gris, nous tenterons de mettre un peu de joie et de malice dans vos oreilles, nous tenterons de vous parler d'amour, mais surtout, nous essaierons de cultiver la paix. Pas évident en ce moment. On pense à des caricatures de l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé. Pas évident de se parler en famille, entre amis, tant les débats sont polarisés. Alors bien sûr, on tente de poser des mots, mais c'est compliqué. Comment se retrouver alors ? Peut-être autour d'un bon film, en écoutant ensemble un bon disque ou en se prêtant des livres qui ont compté pour nous. Oui, au-delà de nos divisions, au-delà de nos dissensions, cultivons les liens, cherchons ce qui nous unit sans renoncer, bien sûr, à nos convictions. Cette semaine encore, Effervescence veut vous en mettre plein la vue, faire briller vos mirettes et vous encourager à regarder ce qui se passe à côté. Et ils sont trois, cette semaine, à avoir relevé le défi d'évoquer la paix en ce mois de juin 2024. Éric Dupri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Toulouse chez Radio Présence et on est content de vous retrouver après des mois d'absence. Vous rendrez hommage à un chanteur oublié, Marcel Mouloudji. Et puis le Festival de Toulouse commence dans quelques jours et pour cette troisième édition, il y a vraiment dans la programmation des pupitres musicales, vous nous les présenterez. Anne-Laure Fiol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste responsable des pages culture à l'hebdomadaire La Vie. Vous nous parlerez d'amour avec une pièce de théâtre qui reprend vie plus de 12 ans après sa création. Ça s'appelle « La réunification des deux Corées » de Joël Pomera. Sinon, et c'est beaucoup plus tragique, vous avez vu sur Arte la série « Little Bird » qui évoque les rafles d'enfants dans les communautés autochtones du Canada. Agnès Manoret-Tonil, bonjour.
Bonjour.
La fantaisie et la légèreté viendront grâce à vous qui avez pu toujours sur Arte voir « Samuel », une formidable série animée. Et de façon plus sérieuse, vous avez visité à Le Ward, dans le Nord, le centre historique minier. Éric, Anne-Laure, Agnès, ils sont tous là. La paix soit avec vous. Effervescence peut commencer.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Quelques notes du célèbre film de Claude Lelouch, Un homme et une femme. Quelques notes pour rendre hommage à la grande Anouk Aimée. La comédienne à l'aura mystérieuse nous a quittés cette semaine. Un homme et une femme, un de ses films les plus célèbres. Une plage, un homme, une femme, le coup de foudre. Un film sur l'amour, l'amour fou. Sur l'amour comme dans la vraie vie et pas comme au cinéma. Disait Lelouch, c'était en 1966. Pour nous, c'est quand même un film qui nous donne envie de croire au cinéma. Mais pourquoi est-il si délicat de parler de choses essentielles comme l'amour ou la paix ? Cette semaine, dans Effervescence, nous voudrions trouver des ressorts pour vous parler de paix. Et quand on parle de paix, forcément, l'amour n'est pas loin, même si on peut, il faut le croire, même si on peut faire la paix sans s'aimer. Comment trouver la paix ? Alors qu'aujourd'hui la guerre est partout, comment les artistes, les romanciers, peuvent-ils nous aider à penser la paix ? La culture peut-elle être un tremplin vers la paix ? Peut-être que oui. En développant notre empathie, en nous donnant une meilleure compréhension des autres, en imaginant d'autres possibles, mais surtout peut-être en nous permettant de vibrer ensemble, d'être connectés aux mêmes émotions. La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski dans L'Idiot. Peut-elle être, puisse-t-elle être un chemin vers la paix ?
Sans et sans
droite et prenez votre adresse vers votre fils requiert en sa hautesse qu'il lui plaise son peuple
Éric, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Alors, c'est une mélodie de Francis Poulenc, une mélodie qu'il a composée un petit peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, sur un poème de Charles d'Orléans. Charles d'Orléans n'est pas du tout contemporain de Francis Poulenc, hein, puisque c'est un poète de la Renaissance. Et c'est un poème adressé à la Vierge Marie. Le titre de la mélodie, c'est « Prier pour paix », puisque ce sont les premiers mots de ce poème, de la première strophe de ce poème, « Priez pour paix, douce Vierge Marie, reine des cieux et du monde, maîtresse ». Voilà, poème adressé à la Vierge Marie, mais aussi aux prélats, aux princes et aux rois, et enfin au peuple, bien sûr, pour qu'il prie pour la paix. Ce vrai trésor de joie, ce sont les mots de Charles d'Orléans, et pour que la paix donc advienne en ce monde. Vous avez vu, ça commence un peu comme une berceuse, les premières notes, c'est une berceuse, puis après ça va prendre une tonalité un peu plus suppliante, et même carrément tragique à l'évocation du sacrifice du Christ et de la guerre qui tout dévoie. Là aussi, ce sont des mots qu'on retrouve dans ce poème. Et on revient une berceuse à la fin, au balancement un peu comme une mère qui balance son enfant dans ses bras. Voilà, enfant qui est confiant et serein dans les bras de sa mère. C'est un poème magnifique et c'est une très très belle mélodie qui est chantée ici par un jeune ténor français qui s'appelle Enguerrand de Huys, accompagné au piano par Paul Bénet. C'est tiré d'un CD intitulé « Contes mystiques » qui est paru sous le label « Rocamadour musique sacrée ». Voilà, vous savez tout.
Merci Eric. Agnès, pour nous aider à penser la paix, vous nous emmenez en Italie découvrir des fresques du XIVe siècle.
Et oui, et Stéphanie, je voudrais vous dire en fait qu'on va plutôt se représenter la paix plutôt que la pensée. Alors, je vais vous parler d'une œuvre qui a un titre très long, « L'allégorie des effets du bon et du mauvais gouvernement dans la ville et à la campagne ». C'est un titre très long pour une fresque qui est très longue, qui fait presque 30 mètres de long et qui se trouve dans le palais communal, le Palazzo Pubblico à Sienne. Quand Ambrogio Lorenzetti a reçu la commande pour cette fresque, pour le palais communal, ça allait assez mal dans la région de Sienne. Des famines, la mort, l'éternelle lutte entre les guelfes et les gibelins, ceux qui sont pour le pape, ceux qui sont pour l'empereur. Et il voulait représenter par cette fresque ce que l'on devait désirer par-dessus tout, c'est-à-dire la paix. Et il en a une conception qui est politique, qui n'est pas religieuse, c'est assez nouveau, assez remarquable. Mais on ne va pas ici faire un cours d'histoire ou de politique. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est que chacun puisse s'imaginer et se représenter que la paix, nous l'avons sous les yeux, elle est dans nos rues, elle est dans nos maisons, et cette fresque-là nous invite à méditer cela. Alors, imaginez la fresque, il y a trois pans, il y en a un qui a été très abîmé par un incendie, mais le reste est très visible, et puis sur Internet c'est assez facile de le voir. Donc il y a une partie qui est plus allégorique. Alors c'est vrai que les représentations allégoriques nous touchent moins, mais il y a une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et ça c'est très clair sur la fresque. La deuxième chose, c'est que la paix, elle se mesure à ses effets, et à ses effets dans un espace concret, celui de la ville, celui de la campagne, qui sont représentés donc sur une dizaine de mètres avec tout un tas de détails. C'est vraiment une chronique de la vie siennoise au XIVe siècle. Et là, si on compare les effets du bon gouvernement, celui de la justice, et les effets du mauvais gouvernement, c'est très clair. Du côté du mauvais gouvernement, on voit une ville où chacun est obligé de se calfeutrer. Les gens sont en armes. On voit une femme qui est en train d'être quasiment violée par des hommes qui ont assassiné son compagnon. On est dans la peur. Voilà, on est dans la peur et tout est détruit. Et en face, on voit les effets de la paix, de la justice, à la ville et à la campagne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Chacun travaille à son commerce. Alors évidemment, on est dans la Toscane du XIVe siècle, on insiste beaucoup sur cet aspect-là. Les enfants se promènent dans la rue. Tout est ouvert. À la ville et à la campagne, on peut se promener. Et quand je suis rentrée, j'ai eu la chance de pouvoir voir cette fresque. J'ai acheté la reproduction de la fresque et je l'ai punaisée à l'entrée de ma maison parce que je me suis dit... Je ne me rends pas assez compte que je vis dans un monde en paix et que la première chose à faire pour la maintenir, c'est de m'en réjouir tous les jours et de mesurer que quand je peux laisser mes enfants se promener pour aller à leurs activités, que je peux prendre le métro tranquillement sans avoir peur, je suis déjà en train de participer à la paix.
On rappelle, Ambrogio Lorenzetti, allégorie et effet du bon et du mauvais gouvernement.
Dans la ville et à la campagne.
Éric, vous aviez une autre pièce à nous faire écouter. Elle est tirée d'un opéra de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.
Oui, absolument. Alors pourquoi, vous allez me dire, qu'est-ce que la paix à voir là-dedans? Puisque le titre de ce morceau, c'est un rondeau, c'est Les Sauvages. Alors, il faut savoir que Les Indes Galantes, il y a quatre entrées. C'est la quatrième et dernière entrée qui avait été ajoutée par Rameau dans un second temps. Les trois premières... La première se passe au Pérou chez les Incas, la deuxième en Turquie et la troisième en Perse. Et donc la quatrième se passe chez les Indiens d'Amérique, qu'on appelait les sauvages à l'époque. Il y a quand même un thème commun à toutes les entrées, c'est la galanterie. Et dans cette histoire, en fait, les troupes franco-espagnoles viennent de gagner une bataille contre les Indiens, Indiens d'Amérique, je le reprécise. Et le chef des Indiens, des guerriers indiens, il se réjouit tout de même que la paix soit retrouvée malgré tout. Mais lui, ce qui le taraude le plus, c'est qu'il veut conquérir le cœur d'une indienne qui s'appelle Zima, et c'est la fille d'un chef, mais qui se trouve être courtisée aussi par deux officiers français et espagnols. Alors l'espagnol lui promet la fidélité pour la vie, le français, vous ne serez pas surprise, mesdames, lui préfère plutôt l'amour libre. Mais finalement, Zima va les rejeter tous les deux et elle va se donner à Dario. Et la scène finale, c'est les Indiens qui font la danse du calumet de la paix avec leurs ennemis, anciens ennemis, leurs adversaires plutôt. Voilà, et donc ça se termine comme ça. Et initialement, très longtemps, on disait les sauvages. Et maintenant, souvent, on voit dans les opéras se présenter comme la danse du calumet de la paix, qui est sans doute un peu mieux politiquement correct comme titre que le précédent. Voilà, mais c'est une œuvre très connue, magnifique, et il y a tout le génie Rameau, et je dirais même tout le génie français de l'époque, hein, c'est 1735, la composition que l'on peut entendre dans cet air, dans ce morceau et dans cette danse.
Et si vous avez l'occasion, allez voir le film de Philippe Béziat sur les Indes Galantes, revu et corrigé par Clément Cogitor. C'était à l'Opéra Bastille avec des troupes d'artistes de danse urbaine. Voilà, donc c'était pour les Indes Galantes. On continue avec vous, Anne-Laure, et vous vouliez nous parler du travail d'une photographe. Travail tout à fait particulier autour de la paix, un travail déjà ancien mais qui continue de tourner.
Tout à fait, cette photographe s'appelle Séverine Desmarais. Et qui, depuis plus de 20 ans, photographie des personnalités qui œuvrent pour la paix dans le monde, chacune à sa manière. Je vais vous dire qui, entre autres. Mais donc, ce projet, ce magnifique projet s'appelle Les Mains de la Paix. Et au fil des prises de vue, donc ce sont des photos grand format, en argentique, en noir et blanc, donc très, très esthétique. Au fil des années, elle a pu constituer une exposition. Donc là, il y a une quarantaine de portraits qui ont déjà été faits. Et donc, ce sont des personnalités comme Barbara Hendricks, qui est une cantatrice américaine, qui a créé la Fondation pour la paix et la réconciliation. Il y a le père Pedro Opeka, qu'on connaît.
Madagascar.
Forest Whitaker, un acteur et réalisateur. Stéphane Hessel, que je ne présente pas non plus. Sharon Stone. Et donc,
Que des personnalités connues, mais engagées pour la paix.
Très engagées pour la paix. Donc, après, les canaux sont très différents. Enfin, c'est-à-dire que ça peut avoir trait au développement durable, à la lutte contre la pauvreté, à l'égalité des chances, à la protection de l'enfance. Enfin, les thématiques sont très, très diverses. Et en 2017, ces portraits ont été exposés sur les grilles de l'UNESCO. L'UNESCO qui est partenaire de cette exposition. Et depuis 2017, ce qui est merveilleux, c'est que ces portraits voyagent. Donc en France et à l'étranger, dans des abbayes, dans des églises, dans des hôpitaux. Notamment aussi dans des centres de soins palliatifs à Jeanne Garnier, mais aussi à Nantes, qui s'appelle Nicodème. Et là, l'actualité, c'est qu'à partir du 19 juillet, il y aura une exposition en 3D, en réalité augmentée. Alors, je ne vais pas rentrer dans des aspects trop techniques, mais les personnes qui se trouveront sur le parvis de Notre-Dame de Paris, via un QR code, pourront avoir cette exposition en réalité immersive sur leur téléphone. Mais aussi, ces 40 portraits seront exposés pendant les JO sur les grilles, non pardon, sur le haut des marches de l'église de la Madeleine. Donc, allez voir, c'est très inspirant.
Quand même, on peut dire quelque chose sur la technique. Parce qu'à chaque fois, elle les photographie dans un noir et blanc qui est magnifique. Et puis, oui. L'exposition s'appelle les Mains de la Paix.
Oui, pardon, alors j'ai pas dit quelque chose d'important. Alors, l'aspect technique, moi, je ne suis pas photographe, mais connaissant cette photographe, je sais que c'est vraiment fait dans l'art et la manière de la photographie, donc vraiment à l'ancienne. Je sais qu'elle prend beaucoup de temps pour justement faire ses prises de vue, pour sentir une connexion aussi avec le sujet qu'elle photographie. Et ses personnalités, c'est vrai que je n'ai pas dit quelque chose d'essentiel, posent avec leurs mains, choisissent une posture qui évoque pour elles la paix. Donc ça peut être des mains sur le cœur, ça peut être des mains ouvertes vers le monde, ça peut être... Allez voir sur son site internet, c'est vraiment magnifique.
Moi, j'aime bien les mains de Stéphane Hessel parce qu'en fait, elle repose sur sa canne et il est là bien, bien ferme dans ses positions et dans ses engagements. Enfin, on sent ça. Ouais, c'est vraiment très, très beau. Allez, vous pouvez avoir sur Internet. Hein. Elle s'appelle Séverine Desmarais et l'exposition, c'est Les Mains de la Paix que vous pourrez peut-être découvrir cet été à Paris. En 2020, l'historien irlandais Colm McCann publiait un gros livre dense et touffu, mais plein de souffle, Apeirogon. Le portrait de deux hommes. Le premier, c'est un Palestinien, Bassam Aramin, et le deuxième, c'est un Israélien, Rami Elanan. Tous les deux ont en commun d'avoir perdu une petite fille dans le conflit qui oppose leurs deux nations. La première a été tuée par un soldat israélien, la deuxième est morte dans un attentat suicide palestinien. C'est une histoire vraie. Hein. Deux enfants perdus à jamais, deux pères éplorés, et pourtant, deux hommes qui depuis travaillent ensemble inlassablement à la paix. Et c'est cette histoire qui tisse le fil de ce livre « Apeirogon ». Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde au lendemain des attentats du 7 octobre, puisque je vous l'ai dit, ce livre date de 2020, hein, Colm McCann essayait de trouver du réconfort auprès de ses deux amis. Mais le réconfort n'est nulle part, écrivait-il, dans cette terre sainte du chagrin, c'est son expression. Il faut, disait-il, citant le philosophe Gramsci, un pessimisme de l'intelligence et un optimisme de la volonté. En d'autres termes, continuait-il, dans ces heures sombres, il faut décider de croire que la possibilité d'un changement n'est malgré tout pas totalement éteinte. Refuser de le croire reviendrait à mourir. Et il partage avec nous ces mots du poète libanais Mahmoud Derwish. La guerre finira et les dirigeants se serreront la main, mais il restera cette mère épuisée qui désire voir son fils, et cette femme qui attend son mari bien-aimé, et ses enfants qui cherchent leur père héros. Je ne sais pas qui a vendu la patrie, mais j'ai vu qui en a payé le prix. Mahmoud Derwish. Alors, ces mères qui pleurent, ça me fait penser à la chanson de Marvin Gaye, What's Going On? Mais qu'est-ce qui se passe? Le frère de Marvin Gaye lui a raconté le Vietnam. Marvin Gaye voit l'impasse sociale dans laquelle se trouvent les États-Unis. Il n'en peut plus de chanter des romances. Il veut raconter le monde comme il le voit et la sérénité à laquelle il aspire. Nous sommes le 21 mai 1971 et Marvin Gaye invente un genre nouveau, une soul consciente engagée.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines. Sides. Don't punish me, sister, with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Sister, oh, what's going on?
Voilà, un petit peu de soleil. What's going on, Marvin Gaye. Agnès, pour terminer, vous vouliez nous lire des lignes de Jaurès pour finir ce temps consacré à la paix.
Oui, c'est un discours que Jaurès a prononcé en 95 à la Chambre des députés. Tout le monde se rappelle qu'il a été assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale, une guerre qu'il sentait venir. Et c'est ça qu'il dit aux députés. Et voilà comment il commence. Messieurs, vous voulez la paix. Vous la voulez profondément. Toutes les classes dirigeantes de l'Europe, les gouvernements et les peuples la veulent aussi, visiblement avec une égale sincérité. Et pourtant, dans cet immense et commun amour de la paix, les budgets de la guerre s'enflent et montent partout, d'année en année. Et la guerre, maudite de tous, redoutée de tous, réprouvée de tous, peut à tout moment éclater sur tous. D'où vient cela ? Ensuite, Jaurès fait une description de toutes les crises qui sont en train de s'abattre sur l'Europe et sur le monde. Et là, une réponse. Toujours votre société, violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre, comme la nuée dormante porte l'orage. Messieurs, il n'y a qu'un moyen d'abolir enfin la guerre entre les peuples. C'est d'abolir la guerre entre les individus, c'est d'abolir la guerre économique.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Et on continue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel, toujours avec Éric Dupri à Toulouse, Agnès Manoret-Tonil et Anne-Laure Filleul à Paris. Comment trouver la paix quand notre histoire puise ses racines dans la guerre qui a été menée contre les Premières Nations du Canada? Alors, c'est une histoire terrible que nous raconte la série Little Bird que l'on peut voir en ce moment sur Arte.
Oui, Little Bird, un petit bijou que je vous recommande. Je vais commencer par le début de cette série, parce que tout commence par une scène insupportable, déchirante. On est en 1968 dans une réserve du Canada. Une famille amérindienne vit là, dans une simplicité et un bonheur proche de la perfection. Les images sont magnifiques, la nature splendide, les enfants jouent dans les herbes hautes, les parents s'enlacent, ils s'aiment profondément. Mais voilà, la crainte latente des parents finit par advenir. Les services de protection de l'enfance finissent par débarquer un jour et arrachée littéralement au foyer des enfants, hormis le fils aîné qui était parti ce jour-là chasser avec son père. On est donc embarqué dans le parcours de Beijing Little Bird. Elle est âgée alors de 5 ans le jour du drame. Elle est placée avec sa sœur et son frère dans un pensionnat géré par l'État, puis adoptée par une famille d'accueil loin des siens.
On écoute la bande-annonce ?
Ah oui, oui.
Madame, ce sont vos enfants ? Nous travaillons pour le service de protection de l'enfance.
Non, qu'est-ce que vous faites ?
On va devoir vous retirer vos enfants aujourd'hui, Madame Littlebird.
Mes enfants ! Maman !
Tu veux dire quelque chose à Monsieur et Madame Rosenblum, Bijik ?
Vous allez être ma mère et mon père ?
Ah, bien sûr, on est tellement contents.
Je voulais de l'information sur votre adoption.
J'aimerais retrouver les membres de ma famille.
Le problème, c'est que votre dossier est sous scellé, comme tous les dossiers d'adoption.
Où est-ce que je suis née ? Je suis pas certaine. Je crois que j'ai de la famille ici. Je m'appelle Beijing.
Je suis ton frère.
Toi, de quoi tu te souviens ?
On ne peut pas juste donner un nouveau nom à quelqu'un et faire semblant qu'il ne s'est rien passé.
Little Bird sur Arte. Vous avez vraiment été très impressionnée par cette série, je crois, Anne-Laure.
Oui, je suis très impressionnée et j'ai trouvé que le récit était très bien mené. Comme je vous le disais, on voit cette petite fille de 5 ans placée dans un pensionnat avec son frère et sa sœur. Et là, bond dans le futur, flashback, Beijing s'appelle désormais Esther Rosenblum, son nom d'adoption. Elle vit à Montréal, s'apprête à passer le barreau, à se marier avec un homme issu d'une famille très fortunée. Et voilà, on va valser, balancer entre passé et présent. Et à la veille de son mariage, donc cette femme qui a l'air d'être une femme accomplie, et pas, on voit pas son traumatisme sur son visage, va quand même, elle joue très bien, va quand même comprendre qu'il faut absolument qu'elle renoue avec ses origines, qu'elle comprend d'où elle vient. Et le déclencheur, ça va quand même être qu'elle est victime au quotidien d'un racisme assez sournois. Et un jour, elle en peut plus. Et donc, elle part et elle se dit, il faut que j'aille découvrir voilà, d'où je viens. Et elle va partir sur les routes. C'est tout le propos de la série, à la recherche de ses frères et sœurs. Et petit à petit, au fil de cette route, il y a des souvenirs très enfouis qui vont émerger comme une psychanalyse quoi, et elle va finalement le traumatisme fait qu'elle avait oublié énormément de choses. Comme vous le disiez tout à l'heure, le contexte est dramatique parce que cette série qui est basée sur des histoires vraies incarne en fait ces existences traumatisées par la rafle des années 60 au Canada, où plus, tenez-vous bien, plus de 20 000 enfants amérindiens ont été enlevés par les services sociaux d'Amérique du Nord. Et le but, c'était de les assimiler à la culture dominante.
Tuer l'Indien en eux.
Tuer l'Indien en eux. Et le prétexte était, non, mais ils sont pas bien traités, votre cuisine n'a pas de... Enfin bref, c'est délirant, délire total. Et cette pratique a perduré quand même jusque dans les années 80, sans que personne ne s'en émeuve. Donc je vous recommande cette série, qui est certes... difficile, et surtout au début quand on voit cette scène d'arrachement des enfants, mais voilà, peu à peu il y a quand même un chemin de libération qui va opérer.
Alors on va changer complètement de sujet, on va respirer, on va sourire, on va se plonger dans un petit cocon. Si vous n'en pouvez plus du climat actuel, bien voilà, plongez dans l'eau fraîche et pétillante de la série Samuel, réconfort garanti.
Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème, mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. J'ai fait une liste de trucs pour m'améliorer. 1. Avoir plus de muscles. 2. Avoir un collier avec une dent de requin. 3. Avoir des cernes. 4. Apprendre un peu l'anglais pour devenir américain. 5. Commencer à écrire des trucs intelligents dans mon journal pour quand les gens le liront quand je serai mort. Et puis il y a Julie. Julie, c'est pas que je l'aime. C'est juste qu'elle a rigolé à une de mes blagues il y a pas longtemps. Bon, en fait, je l'aime, mais personne ne doit savoir.
Hé, t'es amoureux de la grande Julie?
En fait, j'aime pas grandir parce que depuis que je suis née, je me trouve géniale. Et maintenant, je suis pas sûre si c'est vrai. Heureusement que personne ne lit ce que j'écris. Maman, si t'es en train de lire, ça se fait pas, t'arrêtes.
Qu'est-ce qu'on l'aime, ce Samuel. Agnès, vous avez vu cette série pour nous et vous avez fondu?
Ah, complètement. Bon, je suis pas la seule à l'avoir vu. Hein, le petit Samuel qui veut pas qu'on sache ce qu'il écrit dans son journal. Je pense qu'il y a donc des dizaines de millions de personnes qui, depuis le mois de mars, la sortie de la série, se sont penchées sur son petit cœur. Samuel, il est réputé par ses copains être pas souriant et déprimant. En réalité, on a le sourire aux lèvres pendant tous les épisodes de cette série, qui sont des épisodes très courts, hein, 5 minutes. Il y a une saison. Pour le moment, donc 20 épisodes, évidemment tout le monde attend la suite, tout le monde la demande à Émilie Tronche, qui ne s'attendait pas à ça du tout, parce que elle le raconte voilà, sur un certain nombre de vidéos. C'était un projet de fin d'études, il lui restait un peu de temps, elle avait encore tout le matériel, et elle s'est dit, bon, je vais faire un film, allez, je fais quelque chose. Et elle a fait ce quelque chose qui est absolument délicieux. Alors, du point de vue graphique, d'animation, c'est absolument prodigieux. Il faut se représenter un trait très fin, noir uniquement, donc avec des traits noirs sur du blanc, à la fois mobile et en même temps suffisamment lent, 12 images par seconde. Donc, j'allais dire, c'est un repos aussi pour l'œil. C'est Émilie Tronche qui interprète tous ces personnages. Donc Samuel, la fameuse grande Julie, mais il faut parler aussi de Bérénice. Se demander si Bérénice, elle est méchante ou amoureuse, ou un peu les deux. Dimitri, bref, enfin, la maîtresse, le monde. Et c'est elle qui fait toutes les voix avec une petite nuance à chaque fois, qui fait qu'il n'y a pas de doute, c'est soit Samuel, soit la grande Julie. Et pourtant, c'est quand même la voix d'Émilie. Et on est proche d'elle aussi. On a envie de la remercier d'avoir fait cette série qui pose des questions essentielles. Des questions qu'on se pose quand on est en CM2. Et on a parlé de paix, de guerre, mais en paix, c'est important aussi de se demander si on préfère la pluie ou les jours de soleil, si le mois de mars c'est mieux que le mois de décembre, ce genre de choses. Alors j'ai pris quand même conseil auprès de mes ados pour savoir si c'était authentique, parce que c'est très important. Alors elles ont regardé, réfléchi, et à un moment elles ont dit « Ah ouais, c'est trop ça, les CM2, ils croient trop qu'ils ont 15 ans, elle a vraiment bien compris ».
Ouais, ça s'appelle Samuel. Il y a aussi un travail qui est magnifique, c'est sur la bande-son. Toutes les musiques sont formidables. Et moi, j'ai envie, pour continuer un peu l'effet Samuel, eh bien, d'écouter un morceau qui s'appelle Iris, qui est signé de Wim Mertens. Alors, je ne connaissais pas Wim Mertens. C'est un compositeur belge, un très grand compositeur belge avec une palette sonore très, très variée. C'est aussi un pianiste, c'est aussi un contre-ténor, un artiste complet. Il fait beaucoup de musique de cinéma. Allez, on écoute ce morceau.
Thank you.
Voilà Wim Mertens qui donc participe à l'univers sonore de Samuel. Il y a aussi Samuel qui chante William Scheller et Un homme heureux. Bref, il faut absolument, si vous ne l'avez pas encore vu, aller voir cette série qu'on retrouve sur la plateforme d'Arte, sur YouTube, partout. Voilà, ça s'appelle Samuel.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
C'était il y a 30 ans, le 14 juin 1994, disparaissait un artiste, Mouloudji. On écoute quelques notes de sa chanson, peut-être la plus connue, et après, Eric va nous en parler.
Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre. Que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez.
Éric Dupri, Marcel Mouloudji est mort il y a 30 ans, et pas un bruit. Alors c'était une personnalité engagée, mais une personnalité complexe.
Engagé, oui. Alors, est-ce qu'il est oublié, comme vous l'avez dit tout à l'heure au début de l'émission? Non, peut-être pas. C'est un peu exagéré, je pense, dans les milieux de gauche. Je pense qu'il n'est pas oublié du tout. Il y a encore pas mal de familles où on l'écoute et où on transmet l'amour de Mouloudji, de ses chansons et de ses engagements, de père en fils et de mère en fille. Alors, effectivement, il a fait sa carrière en tant que chanteur dit engagé, notamment en chantant cette chanson que tout le monde connaît, Le déserteur de Morillon, mais aussi en étant l'ami de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir lorsqu'il était jeune. Et puis après-guerre, ça a été une figure de Saint-Germain-des-Prés très très longtemps. Il avait soutenu François Mitterrand à l'élection de 74, en 81. Donc voilà, bon, pour ceux qui sont de gauche, Mouloudji, tous ces papiers sont en règle. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. Deux choses, il y en a peut-être qui vont tomber de haut s'ils ne sont pas au courant. Il était très ami avec Lucette Destouches, la veuve de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Il faisait vraiment partie du premier cercle à Meudon, à la fameuse maison 25 Terres, route des Gardes, que connaissent tous les Céliniens. Donc il était très très souvent invité, c'était un intime de Lucette. Bon, ça, il y a un aspect littéraire. En revanche, alors là c'est peut-être ce qui va étonner le plus de gens parmi ceux qui nous écoutent, il était ami avec Jean-Marie Le Pen, Marcel Mouloudji. Je ne sais pas trop comment ils s'étaient connus. C'est un fait que Le Pen est, parce que j'allais parler de l'opacité, il est tout son vivant, Jean-Marie Le Pen, même s'il est très âgé, c'est un amoureux de la chanson française et il connaissait par cœur les chansons de Mouloudji. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont lié connaissance. Et donc, il a eu l'occasion d'être invité chez les Le Pen, que ce soit pour des dîners entre amis un peu intimes ou lors des fêtes qu'organisait Le Pen à sa propriété à Saint-Cloud, où il croisait des gens beaucoup plus à droite. Mouloudji, alors je reste persuadé qu'il n'a jamais mis un bulletin Le Pen dans l'urne, mais voilà, il y a une photo qu'on peut trouver sur le net, vous tapez Mouloudji Jean-Marie Le Pen photo, vous trouverez cette photo, on voit Mouloudji et son épouse invités chez Jean-Marie Le Pen, et en train de dîner à la maison à Saint-Cloud. Bon, que dire d'autre? Alors, est-ce que ça veut dire que l'homme était complexe? Oui, sans doute, comme tout un chacun. Mais tout ça étonnera beaucoup à notre époque où on aime bien voir le monde en noir et blanc. Ben, du noir au blanc, il y a beaucoup de nuances. Et dans ces nuances, ben, des gens comme Mouloudji pouvaient lier des amitiés de la rive gauche à la rive droite et inversement de la rive droite à la rive gauche. Aujourd'hui, on pense surtout à s'invectiver, à s'envoyer des noms d'oiseaux dès qu'on n'est pas du même bord politique. Ben, c'est peut-être une leçon pour nous tous. Et puis il reste ces chansons qui sont vraiment magnifiques, et notamment ces chansons d'amour, parce qu'il y en a beaucoup chez Mouloudji. C'était, pour moi, c'était un vrai chanteur de charme.
Eh bien, on écoute.
L'amour, l'amour,
toujours à l'amour. C'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine à l'amour. L'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune.
Je voulais vous remercier, Eric, parce que moi, je ne connaissais pas du tout Marcel Mouloudji. Je n'ai jamais écouté Marcel Mouloudji. Je connaissais Le Déserteur, forcément, mais pas Marcel Mouloudji et ses chansons d'amour. Alors, on a écouté celle qui s'appelle L'Amour. Et il y en a une autre, je crois que c'est celle que vous préférez, et c'est vrai qu'elle est tout simplement sublime, c'est Un jour tu verras, Eric.
Oui, Un jour tu verras, dont les paroles ont été écrites par Mouloudji. Ben, en fait, les 70 ans de la parution de cette chanson, hein, c'était en 54, voilà, bah, encore un anniversaire. Parole donc de Marcel Mouloudji, et musique de Georges Van Paris, celui qui a composé la musique de La Complainte de la Butte, qui a également chanté Mouloudji. Voilà, et cette chanson, bah, c'est une petite merveille. Je suis très heureux de vous l'avoir fait découvrir.
L'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises.
Je trouve qu'on pourrait même faire la boucle avec Un homme, une femme, Shabadabada. Voilà, c'était Marcel Mouloudji, un artiste donc à redécouvrir.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Anne-Laure, vous allez nous parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle La réunification des deux Corées. C'est une pièce d'un homme important dans le monde du théâtre aujourd'hui, Joël Pommerat. Donc La réunification des deux Corées, je me suis dit c'est un truc de géopolitique. Et en fait non, ça parle d'amour, c'est ça ?
Et ça n'a rien à voir avec la géopolitique. En fait, c'est une sorte de métaphore de l'amour. Et on pourrait presque appeler cette pièce « Fragment du discours amoureux selon Joël Pommerat ». Parce que je vais vous expliquer le principe. C'est... Alors déjà, cette scène, avant d'expliquer le principe, a été... Enfin, cette pièce, pardon, a été jouée et présentée il y a 11 ans à l'Odéon. Et Joël Pommerat s'en empare à nouveau avec les mêmes 9 comédiens. Donc il y a aussi cette idée d'un théâtre pérenne qui dure dans le temps. Les comédiens donc ont voilà 10 ans de plus, ils ont vieilli, mais aussi ils ont mûri, ils ont peaufiné leur jeu. Et moi, cette pièce a été une claque. Alors, ça dure près de 2 heures et on assiste à une vingtaine de scènes, toutes indépendantes les unes des autres. Ces 20 scènes scénettes s'enchaînent et toutes montrent une facette de l'amour. Donc, alors c'est pas toujours très positif, mais ça montre à quel point ce lien, le lien fragile de l'amour, le lien si complexe. Et d'ailleurs, la réunification des deux Corées, c'est bien ça, enfin, c'est-à-dire l'unification est-elle possible entre deux êtres si différents et si complexes. Donc ça parle de l'amour-passion, ça parle de l'emprise, ça parle de la rancœur, ça parle de la routine. Il y a aussi l'amitié qui est mise en scène. Alors tout commence par une femme seule en scène qui a bien, je dirais, 60 ans, 70 ans, et qui annonce qu'elle veut divorcer après peut-être 30 ou 40 ans de mariage, parce qu'en fait, ses enfants sont enfin partis, et qu'elle peut et veut prendre la liberté, maintenant qu'ils sont partis, de vivre. Parce qu'elle explique qu'en fait, elle s'est ennuyée pendant toutes ces années. Donc voilà, ça commence comme ça. C'est très lourd, mais je dirais que c'est tellement bien joué, et c'est tellement intelligent,
il y a un petit peu de lumière.
Et c'est tellement profond. Alors la mise en scène, justement, la mise en scène est très froide, mais très efficace, parce qu'on est vraiment plongé dans le noir. Il y a de temps en temps une fumée blanche, mais cette froideur nous fait vraiment pénétrer à chaque fois sur scène, au cœur du monologue ou du dialogue entre les deux comédiens. Alors du coup, si je devais donner des exemples, il y a cette femme qui commence. Après, autre scène, on voit un homme, un ex, qui retourne voir de façon très insistante une femme, parce qu'en fait, son besoin, c'est d'avoir un au revoir très clair. On voit un prof qui aime un peu trop un de ses élèves, et donc la confrontation entre ce prof et les parents qui veulent comprendre et qui ne comprennent pas et qui finissent par comprendre qu'en fait il y a quelque chose d'absolument pas ajusté et de même très grave. Il y a, alors ça c'était saisissant, il y a un couple qui est dans la souffrance de l'enfant qui ne vient pas, qui n'existe pas et qui va jusqu'à inventer l'existence de cet enfant en ayant recours à une babysitter. Donc c'est assez glaçant, mais c'est très intéressant d'un point de vue psychologique. Voilà, il y a une vingtaine de scènes, et cette pièce, en fait, c'est une réflexion sur ce qui nous lie et ce qui nous sépare. Et moi, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas sortie du théâtre en ne pouvant pas parler. Vraiment, parfois on sort de film ou théâtre et on est obligé de laisser infuser pour comprendre, parce que c'est très dense et très puissant.
Ça s'appelle La réunification des deux Corées de Joël Pommerat, et ça se joue ?
Ça se joue jusqu'au 14 juillet au théâtre de la Porte Saint-Martin.
C'est à Paris. On descend à Toulouse avec vous, Eric, et le Festival de Toulouse, c'est la 3e édition, commence dans quelques jours avec une programmation vraiment très très intéressante, j'ai trouvé.
Bah, il y a tellement de choses que je ne sais pas si je vais pouvoir
tout
vous détailler ici. Mais oui, donc ça va être du 29 juin, samedi 29 juin, au 13 juillet. C'est un samedi aussi. Donc il va y avoir une douzaine, 11 concerts, je crois très précisément. Vraiment dans tous les genres. Il y a du gospel pour commencer. Il y aura du jazz avec Kyle Eastwood qui va interpréter avec son quintet des extraits de bande originale de films de son père ou de films dans lesquels a joué son père. Donc il y aura aussi bien du Morricone que du Lalo Schifrin et que du Kyle Eastwood d'ailleurs, puisque c'est lui qui a composé par exemple la bande originale de Gran Torino avec Michael Stevens. Il y aura de la lecture, concert lecture, Kinigien qui va lire Bonjour Tristesse, encore un anniversaire, les 70 ans de l'apparition de Bonjour Tristesse de François Sagan, qui était originaire de notre région, puisqu'elle était originaire de Cajard, dans Lot. Elle sera accompagnée par une pianiste. Il y a l'Orchestre du Capitole avec Amine Mahalouf, ça je sais que vous l'avez bien noté, Stéphanie. Il y aura deux concerts au Théâtre de la Cité, qui est le Centre Dramatique National de Toulouse. C'est une création, on lui a donné carte blanche pour créer quelque chose sur le thème Saint-Exupéry, partenariat avec la Fondation Saint-Exupéry. Il y aura du bandoneon, hommage à Piazzolla avec Louis Jalus, ça c'est formidable aussi, et ses musiciens. Enfin, j'en passe et j'en oublie.
On écoute d'abord quelques notes de Cal Eastwood, Gran Torino, et puis après vous nous présenterez votre chouchou.
Thank you.
Kyle Eastwood, contrebassiste sur la musique de Gran Torino, qui l'a composé, film de son père. Et alors, le clou du festival de Toulouse pour vous, Eric, c'est l'apparition de Max Richter. Expliquez-nous, qui est ce Max Richter?
Alors, en fait, il va y avoir un concert avec la violoniste Manon Galli, jeune violoniste originaire de Toulouse, révélation des victoires de la musique classique en 2022, avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Ils vont donner les 4 saisons de Vivaldi. Alors, comme ça, sur le papier, bon, ça paraît extrêmement convenu, et ça n'est pas original pour un sou. Sauf que, il va y avoir la version originale que tout le monde connaît des 4 saisons de Vivaldi, et il va y avoir la version recomposée par Max Richter. Max Richter, c'est un compositeur contemporain, germano-britannique, il a 58 ans, quoi, aujourd'hui. Et donc, sa formation, c'est classique, mais il a mis de la musique électro, il s'inspire donc de tous les sons électro pour, entre autres, reprendre des morceaux très connus comme Les Quatre Saisons. Et donc, il déposait ses propres ingrédients. Il est aussi inspiré par les minimalistes américains comme Steve Reich ou Philip Glass. Et ça donne, une version des Quatre Saisons. C'est exactement, il part vraiment de la partition de Vivaldi, il introduit ses propres influences, et ça donne une musique qui a vraiment quelque chose de complètement hypnotique. Donc on pourra comparer les deux versions. Je crois que c'est la première fois que la version originale et la version de Richter sont données lors du même concert. J'ai pas besoin de vous dire, ça va être quand même un véritable marathon pour les musiciens, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire, faut pas rater ça.
Alors on écoute le presto de l'été selon Max Richter. Eric, vous nous redonnez la date de ce concert?
Celui-ci, c'est le vendredi 12 juillet à 21h au Théâtre de la Cité à Toulouse.
Et on imagine que c'est déjà complet.
Pas tout à fait, mais ça va rapidement l'être.
Voilà.
Je ne peux pas vous garantir, il doit rester quelques places encore au moment où on se parle. Voilà.
Précipitez-vous, c'est le Festival de Toulouse. Je vous propose maintenant de remonter dans le nord, avec le soleil dans le cœur, hein. Et on va découvrir l'univers de la mine avec le centre historique minier. C'est à Le Ward. Donc c'est un lieu où la mine est reconstituée, le travail des mineurs est reconstitué. C'est aussi un lieu d'exposition.
Voilà, c'est un des premiers musées européens en fait consacrés à la mine, qui a été pensé très tôt au moment où on voyait que les activités du bassin houiller du Nord allaient se terminer, et c'est très réussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, c'est une visite que j'ai faite en famille, et il y avait de quoi satisfaire le passionné de patrimoine industriel et des questions de transition énergétique et d'énergie, celle qui adore les cailloux, la géologie, le carbonifère, les millions d'années, et puis toute la partie du musée qui restitue la vie quotidienne des habitants de la cité minière, avec beaucoup d'objets, des salles entières qui ont été refaites, notamment la très impressionnante salle des pendus, où il n'y a pas de pendus, mais où les mineurs venaient récupérer leurs vêtements de travail, et pour que les vêtements de travail ne soient pas mouillés par le grand jet d'eau, en fait on les montait au plafond, et donc c'est assez impressionnant. On voit toutes les tenues de mineurs qui sont au plafond. Ils ont reconstitué aussi la lampisterie, et on peut descendre au fond de la mine. Alors c'est pas du tout une visite type Germinal, et à la fin on se replonge dans Jaurès et on se dit que c'est affreux. On voit que la vie s'est engris, Et pas seulement tout en noir. On en apprend beaucoup sur le rôle de la solidarité et même du travail industriel qui a été fait pour augmenter la sécurité. C'est pas du tout les méchants ingénieurs d'un côté et les gentils mineurs exploités de l'autre. Et toute la partie qui raconte l'intégration des Polonais, des Marocains, des Italiens dans les villes minières. Le langage que les enfants se sont inventés entre le ch'ti, un peu de polonais, un peu d'italien, pour se comprendre, toutes les activités, le tir à l'arc notamment, la colombophilie, on en ressort avec la conviction que la vie dans les mines, ça a pu être aussi l'occasion d'une fierté. Et d'ailleurs, moi, je reste avec cette surprise que les premiers à se battre contre la fermeture des mines, ça a été les mineurs eux-mêmes. Mais ils sont vraiment, ils sont mis à l'honneur dans ce centre minier. D'ailleurs, on peut, si on s'inscrit à l'avance, rencontrer d'anciens mineurs qui témoignent en fait de la vie sur le carreau. Et je signale aussi qu'il y a jusqu'au 22 septembre une exposition de photos de mineurs en Ukraine. Alors là, c'est la mine aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu autant d'ingénieurs qui se sont préoccupés des conditions de sécurité. Donc, alors, photographiquement, c'est très saisissant. Ça fait réfléchir aussi sur les progrès qu'il y a encore à faire pour la protection des travailleurs.
Voilà, c'est au Centre historique minier de Le Ward. Merci beaucoup, Agnès. Et voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence. Merci beaucoup à tous les trois, Agnès Manoret-Onil de la revue Études, Anne-Laure Filleul de l'hebdomadaire La Vie et puis Éric Dupri de Radio Présence. Merci à Pierre-Henri Paget pour la réalisation. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très beau week-end. Je vous glisse une petite citation sur la paix de Nelson Mandela qui va bien avec Effervescence. C'est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde. Bon week-end à tous.